Cette conclusion du Notre Père, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire », est quelque chose que l'on appelle une doxologie en termes techniques, parce que cela consiste à rendre gloire à Dieu, et la gloire, cela se dit « doxa » en grec. Eh bien, cette doxologie pose un très grave problème d'authenticité. En fait, aujourd'hui, la quasi-totalité des spécialistes de la Bible considèrent qu'elle n'est pas authentique, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de la prière du Notre Père, mais qu'elle a été ajoutée assez tardivement par la tradition chrétienne. En ce sens, il est un petit peu paradoxal que ce soit les protestants qui aient l'habitude d'ajouter cette doxologie au Notre Père, alors que justement cela n'est pas dans l'origine de l'Évangile, mais que c'est un ajout tardif de la tradition, et que ce soit les catholiques qui, eux, prétendent justement que la tradition peut enrichir la Bible, qui, justement, reviennent à la pureté du texte original. Alors, cette doxologie, donc, n'est pas originale, et ça, on le sait aujourd'hui, puisque elle est absente de la plupart des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, et quand, par hasard, elle s'y trouve, elle comporte de très nombreuses variantes. On n'a pas toujours ces termes-là, de règne, de puissance et de gloire. Des fois, on n'en a que deux, des fois, on n'en a qu'un, des fois, on en a d'autres. Et par ailleurs, même si on garde la formule telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle apparaît évidemment comme assez hétérogène par rapport au reste de la prière. Comment expliquer, en effet, qu'au début, on demande à Dieu que son règne vienne, et puis à la fin, on lui dit qu'à lui appartient le règne. Il y a une forme de contradiction. Et par ailleurs, alors que l'ensemble du Notre Père est plutôt extrêmement concis, très, très, très succinct, utilise peu de mots pour dire les choses, alors dans la doxologie, tout à coup, on met trois mots à la suite qui disent tous un petit peu la même chose. On a l'impression d'une façon de délayer, en quelque sorte, ce qu'il y avait à dire. Bref, tout cela fait pencher vers un ajout tardif. Mais vous le savez, les recherches sont toujours un petit peu curieuses et les propos des spécialistes sont parfois contradictoires. Parce qu'en effet, les recherches les plus récentes ont démontré que la question est en fait plus compliquée que cela. Parce qu'on sait, en particulier grâce aux découvertes de Qumran et à une meilleure connaissance du milieu juif du temps de Jésus, que l'usage du judaïsme à l'époque, et du temps de Jésus donc, était de toujours terminer une prière, quelle qu'elle soit, par une formule de doxologie plus ou moins semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui dans le Notre Père. Et donc cette doxologie qui concluait nécessairement toute prière n'était pas nécessairement écrite dans la prière, mais quiconque prononçait une prière devait forcément conclure par une formule de louange. Et il est donc impensable que Jésus ou que ses disciples, s'ils ont prononcé cette prière du Notre Père, n'aient pas fait de même. Forcément, déjà du temps du Christ, une doxologie devait être ajoutée à la fin du Notre Père et on ne pouvait pas terminer le Notre Père brutalement par ces simples mots « Délivre-nous du mal, Amen ». Alors, est-ce que c'était cette doxologie-là que le Christ utilisait ? Est-ce que c'était une autre ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais peu importe. Ce qui est quand même important, c'est de dire que forcément, il y avait et il y a toujours eu, à la fin du Notre Père, qu'elle soit écrite ou non, une formule de doxologie. Si vous voulez, c'est un petit peu comme nous aujourd'hui. Nous concluons toujours nos prières par le mot « Amen ». Et même si le mot « Amen » n'est pas écrit à la fin d'une prière, dans une liturgie ou dans un texte que vous lisez, quiconque va lire cette prière rajoutera de lui-même à la fin ce mot « Amen ». On peut dire que, en quelque sorte, la doxologie est un « Amen » développé. On prie et à la fin de la prière, on dit « Car Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance, l'honneur, la gloire, enfin tout ce que l'on veut. » Mais c'est un petit peu une sorte d'« Amen » développé. Et puis, de toute manière, j'avoue qu'il me semblerait inconcevable de terminer la prière du Notre Père sur la seule mention du malin, c'est-à-dire du diable. D'ailleurs, c'est un autre usage dans la tradition juive que quand on lit un texte, il ne faut jamais terminer sur une mauvaise parole. Il faut terminer sur un davar tov, c'est-à-dire sur une bonne parole. Alors comment imaginer que dans la prière, on laisse en quelque sorte le dernier mot au diable, car c'est « délivre-nous du malin, délivre-nous du démon ». Point. On ne peut pas rester comme ça, sur cette simple mention du démon. Il y a une sorte de nécessité, je dirais intérieure et même théologique, à revenir à autre chose de plus positif, de façon à donner le dernier mot à Dieu et au bien. Oui, je crois que il est nécessaire et fondamental que la prière de notre Seigneur se termine par une louange, par une mention de Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, de même que dans toute prière, on ne peut pas rester comme cela. Et d'ailleurs, si l'on voulait garder le Notre Père tout nu comme cela, sans finale, je pense qu'effectivement, comme exemple même de prière, puisque c'est présenté comme cela par le Christ, il manquerait quelque chose. Parce que certes, la prière, c'est de demander à Dieu, qu'il soit grand, qu'il soit reconnu, qu'il soit sanctifié, c'est de lui demander sa force, son pardon, son soutien, la délivrance et tout cela. Mais la prière, ça n'est pas que cela. Et je trouve que cela serait tout à fait incomplet si le Christ, donnant une leçon sur la prière, n'avait donné que des exemples de demandes. Et il manquerait alors quelque chose d'essentiel, qui est vraiment une part, je crois, fondamentale de la prière, c'est la louange et l'action de grâce. Forcément, dans la prière, il y a une part de louange et il y a une part d'action de grâce. Parce que la prière, ça n'est pas que demander à Dieu. La prière, ça n'est pas seulement se soumettre à lui-même, mais la prière, c'est aussi de lui dire à Dieu notre joie, notre foi, notre confiance en lui. Et c'est pourquoi il est fondamental que dans la prière, on trouve le moyen d'ajouter comme cela quelque chose qui est de l'ordre de la louange ou de la confession de foi. Alors me direz-vous, mais pourquoi alors à ce moment-là, le Christ n'a pas lui-même déterminé en quelque sorte la formule à utiliser pour louer Dieu et pour lui dire notre foi et notre confiance? Eh bien, je pourrais avancer l'hypothèse que finalement c'est même mieux ainsi. C'est mieux ainsi parce que, justement, ce n'est pas le Seigneur qui nous impose la façon de lui rendre gloire, mais cette action de grâce qui doit nécessairement, je l'insiste, conclure la prière, doit être une sorte d'élan du cœur, une formule personnelle. Et en ce sens, nous ne devrions pas utiliser toujours la même formule, mais ça devrait être un cri du cœur. Et à la fin de la prière, dire « Oui Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent la royauté, la grandeur, l'honneur, la gloire, l'éternité. Dites ce que vous voulez, mais dites en quoi vous croyez en Dieu. » Parce que cela, on ne peut pas l'imposer. Je ne peux pas demander à Dieu, à un fidèle, sur commande, de confesser sa foi de telle ou de telle manière et de rendre gloire à Dieu de telle ou de telle manière. Cela ne peut être qu'un élan personnel et qu'un cri du cœur. Oui, la louange ne peut pas être imposée, je crois. Pour les demandes, si, c'est un peu différent. Parce que pour les demandes, là, il faut faire bien attention. On ne doit pas demander n'importe quoi à Dieu. Et par conséquent, il est bon que le Christ nous ait orientés en disant « Attention, voilà ce que vous pouvez demander et voilà comment vous pouvez le demander. » C'est le Christ qui nous oriente sur la façon de trouver la juste demande. Et une fois que vous avez demandé, eh bien après, carte blanche pour vous, pour louer Dieu. Mais n'oubliez pas de louer Dieu et de rendre gloire. Et cela, nous le faisons à notre manière et avec notre authenticité, et c'est cela qui est important. Mais ce à quoi l'on peut prêter attention, peut-être, quand même dans la doxologie que nous utilisons, nous, sur laquelle les chrétiens se sont finalement fixés, on aurait pu en trouver une autre, ce qui m'intrigue, c'est le « car ». Nous demandons à Dieu plein de choses, et à la fin, nous disons « car ». Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, etc. Pourquoi ce car ? Alors, certains ont pu penser que c'est parce que nous disons à Dieu notre foi, en quelque sorte, que nous pouvons lui demander ces choses. C'est au nom de notre foi que nous pouvons lui adresser notre prière, comme si, en quelque sorte, cette confession de foi que l'on fait à la fin, en disant à Dieu qu'on croit en lui, pouvait légitimer notre demande. Je te demande tout cela parce que moi je crois que à toi appartiennent la puissance, l'honneur et la gloire. Eh bien, je n'aime pas cette interprétation qui est celle dite la plus couramment. Je ne l'aime pas parce que je ne pense pas que nous devions montrer à Dieu les mérites de notre foi pour qu'il veuille bien daigner nous écouter. Au contraire, ce qui est remarquable, je crois, c'est justement que cette doxologie intervient à la fin, c'est-à-dire après que nous lui ayons demandé tant de choses. En effet, un bon flatteur commence d'abord par flatter quelqu'un avant de lui réclamer des choses. Et donc, nous devrions d'abord dire à Dieu, « Ô Dieu, toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, toi qui es merveilleux, toi en qui nous mettons toute notre espérance. Tiens, voilà, donne-nous ceci, donne-nous cela, parce que tu vois combien j'ai confiance en toi. » Eh bien, le Notre Père est extraordinaire, justement, parce qu'il n'y a aucune trace de flatterie dans la demande du croyant. On commence par demander à Dieu sans rien lui dire, sans faire état de notre foi, de notre perfection, de nos mérites. Simplement, on demande à Dieu, simplement parce que le Christ nous invite à le faire et parce que nous avons confiance en lui, oui, et simplement parce que nous comptons sur son amour et parce que Dieu donc nous invite à le faire. Nous comptons sur lui qui nous autorise à faire ainsi sans que Dieu n'impose aucune condition au fait que nous lui adressions ses demandes, et sans qu'il n'y ait nulle part dans le Notre Père la moindre condition pour que Dieu nous exauce. Simplement, quand vous priez, dites, vous demandez, et votre Père qui est dans le ciel vous écoutera. C'est donc gratuitement que nous demandons, c'est gratuitement que Dieu nous donne, et c'est gratuitement que nous louons Dieu à la fin, parce que nous sommes effectivement dans la gratuité. Et par conséquent, c'est bien à la fin, et ce n'est pas à cause de notre confession de foi ou de notre louange que Dieu nous écoutera. Mais néanmoins, ce « car c'est à toi qu'appartiennent » est quand même, donc n'est toujours pas expliqué en quelque sorte. Alors, une solution pourrait être de dire que nous pensons bien que Dieu sera capable de faire ce que nous lui demandons, puisque, effectivement, nous croyons dans sa force. Dans ce cas, ce car serait une sorte de manière de se rassurer nous-mêmes sur l'efficacité de notre prière. Je te demande tout cela parce que, dans le fond, je veux croire que c'est toi qui peux nous le donner. Bon, je ne pense pas que cela soit très, très intéressant comme solution, mais on pourrait continuer dans ce sens, aller un petit peu plus loin et l'interpréter d'une façon, je crois, plus profonde, plus intéressante et peut-être plus subtile, en considérant que tout ce que nous avons demandé là à Dieu, dans la prière du Notre Père, ne pourra effectivement se réaliser en nous que si nous avons foi en lui. Et ça, c'est répété souvent dans la Bible. Ce n'est pas que Dieu regarderait et comptabiliserait les mérites de notre foi ou de notre authenticité pour savoir s'il va ou non nous exaucer, mais c'est tout à fait autre chose. C'est que tout ce que nous demandons, je crois, à Dieu dans la prière, ne peut advenir réellement en nous que s'il y a en nous une sorte de coopération à l'œuvre de Dieu en nous, que si nous collaborons à l'action créatrice de Dieu. Oui, c'est bien parce que nous croyons en Dieu qu'il peut devenir pour nous source de nourriture spirituelle. Quand on dit « donne-nous notre pain quotidien », ce n'est pas que nous puissions indépendamment de lui penser à toute autre chose et que automatiquement Dieu nous donnera une sorte de perfusion spirituelle, si vous voulez. Donne-nous notre pain quotidien, Dieu ne peut nous nourrir que si nous-mêmes nous ouvrons la bouche et nous attendons de lui qu'il nous nourrisse. De même, c'est bien parce que nous avons confiance dans la puissance de l'amour de Dieu que nous pouvons nous considérer et nous reconnaître comme libérés et pardonnés. Si nous ne pensions pas que Dieu était effectivement une puissance infinie d'amour et de pardon, eh bien nous n'arriverions pas à nous convaincre que Dieu nous pardonne et nous ne serions pas libérés des sentiments de culpabilité stérile. Et c'est bien également si nous croyons de tout notre cœur que c'est à Dieu que revient de droit la royauté, que nous pouvons alors progresser dans le fait de le reconnaître de plus en plus comme roi. Oui, je crois que l'action de Dieu à notre égard n'est pas une action extérieure à nous, qui agirait sans nous et malgré nous. Mais l'action de Dieu, c'est une force qui agit en nous et qui agit par nous. Et il ne suffit pas, je crois que ça c'est vrai, il ne suffit pas de prier le Notre Père pour ensuite s'asseoir dans un fauteuil et attendre que Dieu fasse son travail. Mais le Notre Père est une prière qui nous engage tout entier. Et l'action de Dieu en nous n'est possible que parce que nous croyons en lui et que nous mettons notre confiance en lui. Alors dans le détail, oui, on pourrait critiquer ensuite la doxologie que nous avons, règne, puissance et gloire. On pourrait la critiquer, et je l'ai fait longtemps, en pensant qu'après tout, c'est quand même un mauvais choix, parce que si je dois confesser ma foi en Dieu, je préférerais la confesser d'une façon plus proche de l'esprit de l'Évangile et dire « Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le pardon, la joie et la paix au siècle des siècles. Amen. » Puisque de toute façon, la doxologie n'est pas dictée par le Christ, on peut inventer celle que l'on veut, n'est-ce pas ? Donc j'aurais a priori eu plutôt tendance à penser que je préférerais ne pas avoir cette espèce de formule « règne, puissance et gloire » qui nous replonge dans une vision un peu de l'Ancien Testament d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu monarque oriental devant lequel on tremble et devant lequel on s'approche en soumission et avec tremblement et crainte. Je n'aime pas trop, c'est vrai, ces trois termes, parce que je trouve qu'ils nous éloignent un petit peu de l'esprit du Notre Père, qui est au contraire un esprit plein de pardon, plein de proximité, plein d'amour, plein de tendresse. Et donc on commence bien avec le Notre Père sur la notion du Père, justement, et on finit devant un monarque oriental terrifiant, ayant droit de vie et de mort sur nous. J'avoue qu'a priori, j'ai toujours eu un certain recul par rapport à la doxologie qui nous est présentée. Et il m'est arrivé d'ailleurs même ici de conclure le Notre Père par une autre doxologie inventée de ma part, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le pardon et la paix, au siècle des siècles. Amen. Mais bon, néanmoins, je crois que en réfléchissant encore plus, puisqu'on progresse tous les jours, en réfléchissant encore plus profondément, je pense que finalement, la doxologie que nous avons n'est pas si mal. Et qu'elle est même bonne et essentielle. Donc finalement, je veux bien la garder et je vais vous dire pourquoi. Je crois qu'elle est bonne parce que, d'une manière générale, le fait de rendre gloire à Dieu, c'est bien la condition fondamentale, non seulement de l'exaucement de la prière du Notre Père, mais même c'est la condition de toute vie chrétienne. Parce que dire qu'à Dieu appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, c'est justement se mettre dans une sorte de disposition, je dirais, d'humilité soi-même, par rapport à Dieu, par rapport au Dieu dont nous attendons tout, et un Dieu que nous voulons servir, qui entraîne une sorte de différentiel, vous voyez, de distanciation entre Dieu et nous, qui est fondamental. Et si je conclue le Notre Père par une formule « car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, la paix et la bonté », eh bien, Peut-être qu'à ce moment-là, j'écrase le Notre Père, j'écrase la prière, en faisant de Dieu une sorte de pote sympathique et inopérant. Je pense que Dieu doit, d'une certaine manière, quand même garder justement cette distance fondamentale par rapport à nous. Et c'est parce que Dieu, fondamentalement, est pour nous le roi puissant et glorieux, que le fait de pouvoir l'appeler Père devient une chose extraordinaire. C'est parce que Dieu est pour nous le roi puissant et glorieux qui pourrait nous condamner et nous tuer, que le fait qu'il nous pardonne est la plus grande des nouvelles. Et c'est parce que nous croyons dans la grandeur et la puissance de Dieu que nous pouvons effectivement mettre notre confiance en lui comme autre chose qu'un ami sympathique qui nous accompagne et qui nous console. Et par conséquent, je pense effectivement qu'il est bon que dans la prière du Notre Père, il y ait précisément cette attitude un petit peu difficile peut-être, mais fondamentale, de celui qui reconnaît en Dieu le roi, le Seigneur et le puissant. Et je pourrais même aller plus loin en disant que c'est même cette attitude de rendre gloire à Dieu qui est ce qui nous mène à l'encontre du péché originel. Le péché originel, qui est l'attitude disqualificatoire dans toute relation à Dieu, le péché originel, qui est l'attitude fausse, qui fait en sorte que notre vie même ne peut plus que conduire à la souffrance, à la mort, à l'égoïsme et à l'exclusion, le péché originel, c'est de se croire soi-même Dieu, de se prendre soi-même pour le centre de sa vie et de se prendre soi-même pour son propre roi. Et bien là, justement, nous disons « Oui, Seigneur, je ne suis pas le centre de ma vie, je ne suis pas Dieu, et la gloire, la puissance et la royauté, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. » Il y a là, je crois, quelque chose qui est essentiel et qui permet justement que nous puissions grandir nous-mêmes et que nous puissions demander toutes ces choses dans le Notre Père, non pas pour nous faire plaisir, pour notre propre consommation, pour notre propre progrès, mais au contraire dans une attitude infiniment humble de service de Dieu. Je ne demande pas toutes ces choses à Dieu dans le Notre Père pour moi, mais je le demande pour ton service et parce que je suis appelé moi-même à me mettre au service de Dieu et au service du monde. De toute façon, je crois que la seule manière de pouvoir recevoir Dieu et de pouvoir recevoir tous ses dons, c'est de sortir de son propre égoïsme et de sa préoccupation de soi-même. Et le mouvement de l'âme qui s'opère lorsque l'on dit cette doxologie participe de cela. Se départir de son propre égocentrisme pour se recentrer en Dieu, qui est le seul centre de toute foi, de toute confiance, de toute vie, c'est lui le seul objectif possible. Et c'est vraiment, oui, c'est lui à qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Alors on pourrait préciser tout cela en disant que dire qu'à Dieu appartient la royauté, c'est peut-être cela qui est le plus proche du fait d'échapper au péché originel. C'est bien d'affirmer que nous ne voulons pas faire de notre bon plaisir le but de notre vie, mais que nous sommes prêts à prendre un idéal supérieur comme but plutôt que la satisfaction personnelle de l'instant. Oui, cela est essentiel. Et je crois que c'est cette foi en Dieu, ce décentrage qui permet de dire « ce n'est pas moi qui est le centre et qui décide ce qui est bien et ce qui est mal ». Ce décentrage, c'est ce qui donne sens à ma vie, c'est ce qui peut donner une armature à ma vie. C'est-à-dire que notre existence n'est pas considérée comme une pauvre chose retournée sur elle-même qui essaye de survivre et d'être la moins malheureuse possible et qui essaye de phagocyter des sources d'énergie extérieure pour mieux survivre elle-même. Ma vie n'est pas comme cela. Ma vie n'est pas centrée sur elle-même, mais je décentre ma vie pour la centrer sur un autre, sur un tout autre qu'est Dieu. Et à ce moment-là, ma vie devient une réalité non plus retournée sur elle-même et condamnée à mourir, mais une réalité tendue vers un idéal et mue par une vocation. Dire qu'à Dieu appartient la puissance, c'est reconnaître que nos forces à nous sont limitées, que nous avons besoin de Dieu, que nous ne sommes pas autosuffisants. Les psychanalystes ont même insisté sur cette étape essentielle, disent-ils, du développement de l'enfant et de tout être humain, en disant que le seul moyen d'accéder à l'âge adulte, c'est un jour ou l'autre de renoncer à son désir narcissique de toute puissance. Je crois que normalement les enfants y renoncent vers l'âge de 2 ans, mais je crois que beaucoup d'entre nous n'avons pas toujours entièrement dépassé ce stade. Et par conséquent, il est bon de dire « ce n'est pas moi qui ai la puissance ou la toute-puissance, mais la puissance, elle n'est pas en moi, elle est en Dieu. Donc, j'ai besoin de Dieu. » C'est l'attitude fondamentale du chrétien face à Dieu qui consiste à reconnaître que nous avons besoin de lui, besoin de son aide. C'est ce que tout chrétien fait régulièrement dans les prières de confession des péchés qui se trouvent de tout temps dans toutes les liturgies chrétiennes. Et puis dire enfin qu'à Dieu appartient la gloire, c'est lui dire que nous voulons que ce soit lui qui soit le centre absolu de notre vie. En effet, vous le savez sans doute, le mot « gloire » en hébreu veut dire le poids, ce qui est lourd. Et la question, c'est donc de savoir à qui appartient vraiment ce qui a du poids dans ma vie. Qu'est-ce qui est la vraie valeur? Qu'est-ce qui est la vraie consistance de ma vie pour moi? Alors pour être dans un rapport juste à Dieu, au monde et à moi-même, je dois reconnaître que moi, ma petite personne, n'est qu'une ombre qui passe. Oui, je n'ai pas, moi, un poids extraordinaire. Je ne suis qu'une petite chose légère, provisoire. Je ne suis que comme une balle de paille emportée par le vent. Mais que je crois justement que le poids, le lest, la durabilité ne se trouve pas en moi-même, mais se trouve en un autre que moi-même, qui est Dieu. Et en Dieu, j'ai un lest, j'ai un ancrage, j'ai un rocher qui me donne un enracinement indéfectible. Oui, c'est en Dieu que j'ai cela, et non pas en moi-même. Et c'est sur ce point qu'insiste encore la doxologie, je crois, en disant ensuite « pour les siècles des siècles ». Oui, c'est-à-dire pour l'éternité. Oui, l'éternité n'appartient qu'à Dieu. Et moi, je ne participe à l'éternité que dans la mesure où je m'accroche à Dieu, parce que ma nature à moi est fondamentalement passagère. Et ce n'est qu'en tant que ma vie est accrochée, attachée à Dieu, que je peux hériter de l'éternité, car ce n'est qu'à Dieu seul qu'appartient l'éternité. Donc vous voyez bien, tout cela est absolument essentiel. Et ces trois réalités, royaume, puissance et gloire, sont fondamentales, je crois, et dans la démarche même de celui qui prie. Et d'ailleurs, ces trois termes sont bien choisis parce que, bon, c'est vrai qu'ils disent un petit peu tous trois la même chose, mais avec des nuances. Et on peut y voir une petite évolution intéressante. Parce que quand on dit « c'est à toi qu'appartient la royauté », c'est vrai, mais pour que Dieu soit reconnu comme roi, il faut qu'il y ait des gens qui le reconnaissent comme roi. Donc « c'est à toi qu'appartient la royauté », ça m'engage moi. « C'est à toi qu'appartient la puissance », ça c'est beaucoup plus propre à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de moi pour être puissant. Il n'a pas besoin que je lui reconnaisse cette puissance pour que sa puissance ait lieu. Mais néanmoins, la puissance s'exerce sur quelqu'un et donc il a besoin de moi pour exercer sa puissance sur moi. Et quand je dis la gloire, alors là je suis vraiment en Dieu seul, parce que la gloire de Dieu ne dépend aucunement de ceux qui lui rendent gloire. Et donc il y a une sorte de mouvement centripète qui nous entraîne, je crois, de notre propre relativité vers la grandeur et je dirais la grandeur et l'absoluité, si je peux dire, l'absolu de Dieu dans son éternité. Et puis enfin, le dernier mot n'est pas sans importance non plus, ce « Amen » qui conclut toutes nos prières et qui ne signifie pas du tout « ainsi soit-il » comme on vous l'a enseigné peut-être, comme si c'était une sorte de vœu « ah, j'aimerais bien que ce soit vrai ». Mais « Amen », ça veut dire « c'est vrai, c'est certain, c'est sûr ». C'est ce mot qu'utilise le Christ quand il dit « en vérité, je vous le dis ». Amen, amen, je vous le dis. Et en disant « Amen », nous disons pour finir que tout ce que nous avons exprimé dans cette prière, eh bien, c'est absolument cela qui est le vrai, le fondamental, le certain, la base inébranlable de notre foi et de notre vie. Il paraît d'ailleurs que ce mot « Amen » désignait autrefois, ou peut-être encore aujourd'hui, dans les caravanes de chameaux, le lien qui attache les chameaux entre eux dans une caravane. Et cette image est belle, et peut-être que comme le chameau dans la caravane, nous sommes ainsi au milieu d'une nuée de témoins, de génération en génération, de croyants les uns après les autres qui font confiance à Dieu pour les mener dans l'oasis de la vie, un oasis de verdure, de fraîcheur et de paix que Dieu nous promet. Et peut-être aussi que parfois, comme ces chameaux, nous ne voyons pas très bien où nous allons exactement. Mais nous pouvons avoir confiance dans notre Maître. Et ce lien qui nous relie les uns aux autres, ce lien qui fait de nous tous des frères, enfants d'un même Dieu que nous appelons Père, ce lien, c'est celui peut-être du Notre Père, ou celui de toute prière qui va dans ce sens, de toute attitude qui va dans le sens de ce que le Notre Père nous indique, sens qui est fait de confiance, d'ouverture et d'appel à Dieu pour notre plus grande joie et pour le service du monde. Amen.